Alors, on va lire le premier chapitre mais du livre de Jonas. Mais avant ceci, une petite introduction. Alors, dire que Jonas, le prénom en fait en hébreu signifie colombe. Et le prophète Jonas est mentionné, mais on va pas ouvrir nos Bibles là, dans 2 Rois 14, 25, qui nous indique en fait qu'il était un prophète qui a exercé son ministère dans le royaume du Nord durant le règne du roi Jéroboam II. Donc ça nous situe 793 à 753 avant Jésus-Christ. Hein. Jonas, c'est durant cette période-là qu'il a exercé son ministère dans le royaume du Nord. C'est un des rares prophètes du royaume du Nord, d'ailleurs, parce que la grande majorité venait du royaume de Juda, du royaume du Sud. Et puis donc, entre 700, durant le règne du roi Jéroboam, entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Son ministère, pour le mettre un peu dans la chronologie des prophètes aussi, il était juste après celui, quelque temps après celui d'Élisée. Hein, il y a eu Élie, le fameux prophète, après il y a eu Élisée. Et puis, Jonas, il arrive après. Et puis, Jonas, il était un contemporain du prophète Amos. Donc, on voit que dans nos Bibles, il n'y a pas une chronologie au niveau du temps, parce que Amos se trouve juste avant Jonas, hein, dans la chronologie des livres. Mais dans le temps, Amos, a été un prophète qui a suivi le temps du ministère de Jonas. Et puis, que dire encore d'autre? Ouais, au niveau des prophètes, c'est un peu tout. Hein. Et puis, on ne sait pas vraiment, par contre, parce que, bon, il était prophétisé, il était appelé à prophétiser à Ninive, qui était la capitale des Assyriens. Et on ne sait pas vraiment sous quel roi, quel était le roi qui régnait à Ninive au moment où Jonas est venu. Il peut y en avoir deux. Soit, bon, je vous donne les noms, là, un roi qui s'appelait Hadad-Nirari III, hein, qui était roi entre 810 et 783 avant Jésus-Christ, et puis dont le règne fut marqué par un changement d'orientation vers le monothéisme. Il y a quand même des traces historiques où on voit que ce roi-là, durant son règne, les Assyriens sont tournés vers une forme de culte du monothéisme. Et puis, un autre roi, ça pourrait être celui-ci aussi, Assur Dan III, qui était entre 765 et 759 avant Jésus-Christ. Et il y a des choses intéressantes aussi durant son règne qui pourraient peut-être nous faire dire que c'était celui-ci. Du temps de Jonas, en fait, l'Empire vécut deux épidémies majeures de peste. Hein, donc, ils ont vécu des choses difficiles. Entre parenthèses, à savoir d'ailleurs que la peste du Moyen-Âge, ce sont les croisés qui l'ont ramené de leur périple en Orient. Hein, donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait déjà de la peste à l'époque de Jonas. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais les croisés ont ramené en Europe la peste. Hein. Et puis, un autre événement durant ce deuxième roi assyrien, Assur Dan III, là, il y eut aussi une éclipse totale du soleil durant le règne de ce roi. Et puis, cela avait certainement marqué les consciences en préparant les gens de la capitale assyrienne au message d'appel à la repentance. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Il y a eu des circonstances, en tout cas historiques. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Assyrie dans ces moments-là. Et puis, petit point aussi géographique, il faut savoir que Ninive était située à environ 800 km au nord-est de la Galilée, hein, d'où venait le prophète Jonas.
C'est la ville de Mossoul actuellement.
Ninive. Alors, je sais pas, bon, c'est bien possible.
Quoi, Mossoul, Ninive? C'est moi actuellement Mossoul. Oui,
c'est bien possible. Hein.
Tout à fait, ouais. Ah, c'est sûr.
Ouais. Ouais, ça doit être dans cette région.
Mossoul qui est en train d'être plus ou moins libéré.
Alors, l'histoire qui nous est partagée dans ce texte nous rappelle plus spécifiquement à Israël, pour Israël, que le salut est offert à toutes les nations, pour les gens qui se repentent. Pourquoi je dis ça? Parce que Jonas, il n'était pas forcément, on le verra tellement dans cette théologie-là, hein, il pensait surtout à Israël et il pensait peu au salut pour les autres nations. Jonas était peut-être pris dans une théologie de prédominance d'Israël, hein, de supériorité d'Israël, et avait oublié cet appel missionnaire à partager la parole de Dieu, non seulement dans son pays, mais également envers les nations païennes. Parce qu'on peut se rappeler de la promesse de Dieu faite à Abraham, et je vous lis dans Genèse 12, versets 2 à 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » C'est vrai qu'on se rappelle assez ce texte-là, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » On se rappelle assez de ce texte par rapport à Israël, hein. Mais on se rappelle des fois peut-être un peu moins la fin de ce verset 3. « Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Il y a un appel sur Israël d'être une source de bénédiction pour toutes les nations. Et on voit qu'en tout cas, cette histoire de Jonas, il y a vraiment... le prophète, il doit y avoir quand même un arrière-plan, une théologie qui est mal fondée chez lui. Hein, ou un cœur qui est en tout cas mal affermi dans la grâce du Seigneur. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va lire le chapitre premier de Jonas. Et puis après, si vous avez envie de faire des commentaires sur des choses que vous auriez envie de partager, bienvenue.
D'abord, on lit tout. Hein.
D'abord, on lit tout le premier. On va faire par chapitre.
Voilà, c'est ça.
Un chapitre, le premier, après le deuxième, etc. quoi. Donc, je lis le premier, et puis après, si vous avez envie de partager des choses, vous partagez. Puis moi, j'ai aussi préparé du matériel, en fait. Donc, voilà. Alors, je lis. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez. » Et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors voilà, hein, premier chapitre. C'est un texte qui, C'est un livre qui est intéressant à étudier parce qu'il y a 4 chapitres, donc on peut quand même faire le tour assez rapidement, entre guillemets. Et puis on a une vue d'ensemble aussi, c'est un texte qui se prête bien à une étude biblique. Et puis je ne sais pas si vous avez déjà envie de réagir, de rebondir sur un verset ou sur plus. Ouais,
tout premier, tirer au sort. Ça ouais. Nous paraît bizarre, hein, tirer ouais, au ouais. sort.
Peut-être que c'était la coutume, là, non?
Ça devait se faire, oui, oui.
Oui, oui.
Il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament hein, aussi où ouais, ils le font comme une pratique.
Comme ouais. la courte paille, un peu.
Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais. Moi, je m'imaginais tout à fait.
Ouais, ouais. Celui qui a la courte paille.
Zut, le sort, elle tombe sur le bon, quoi. Mais,
ouais. C'est là qu'on voit déjà que tout est conduit par Dieu. Hein.
Ouais.
Si on... Bon, on connaît l'histoire, c'est clair, mais quand même.
Ah, si c'était tombé sur le mauvais, hein.
Ouais, non, mais je ne sais pas. Ouais. Chacun invoque son Dieu. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de nationalités peut-être différentes.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ils aussi que finalement Dieu n'a pas besoin de Jonas pour que les personnes se repentent. Hein. Mm-hmm. On le voit ouais. à la fin du premier chapitre. Là.
Ouais. C'est vrai que c'est un texte qui parle beaucoup de repentance, puis en effet, là, ouais, moi, je n'ai pas pensé à ça. Mais en effet, ben, là aussi, au miracle, les gens se repentent sans que Jonas ait vraiment parlé. Ouais. Ouais. Ouais.
Puis il y a aussi le chapitre 6.
Le verset 6.
Le verset 6, oui, qui rappelle aussi ce qui s'était passé sur le bateau avec Jésus.
Ça fait penser à ça. Hein.
Cette tempête, oui, hein. Ouais. Un peu les mêmes choses. Pourquoi dors-tu?
Ouais, ben, prends pas garde quand on est en train de périr. Ouais. Là.
L'absence de foi de ces gens devant les éléments qui se déchaînent. Quoi.
Ouais, moi, je sais pas si je ferais mieux. Hein.
Non. Et puis on voit l'obéissance de Jonas, hein, va à Ninive, puis il fout le catharsis.
Ah, allez, là, ouais, c'est... Il prend,
ça, c'est le point important.
Il prend vraiment la direction complètement opposée.
Opposée, hein, voilà. Ouais. Parce qu'il n'est pas d'accord d'aller apporter à Ninive la repentance.
C'est ça.
C'était pour le peuple juif, c'est ça.
C'est là qu'on voit justement en arrière-plan sa théologie un peu déjà, hein, qui sort dans son attitude. Hein, ouais. Il le déclare, on le verra aussi tout à la fin de ce livre, quoi. Mais il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est sûr, dans ce moment-là. Ce n'est pas par hasard qu'il s'en va à Tarsis. Hein, ce n'est pas sur un coup de tête comme ça. Il y a quelque chose qui le motive dans son cœur.
Et en plus, il prophétise en ayant la certitude que l'Éternel le sauvera, quoi. Il dit, jetez-moi par du bord, quoi.
Il n'aurait pas demandé ça, hein. Surtout quand c'est pas là,
il aurait dit. Il était sûr de ce qui allait se passer, quoi. Enfin, c'était cette conviction intime que, bon...
Ben aussi, il savait en tout cas que le jugement de Dieu était là. Ouais. Est-ce qu'il savait qu'il allait être sauvé? Je ne sais pas. On ne sait pas, hein, ça c'est l'histoire du texte.
Non, mais il avait la foi, quoi.
Mais il savait que la tempête était à cause de lui, ouais.
Oui, puis il y avait une relation spéciale entre lui et Dieu, parce que s'il était là, c'était à cause de ça, que Dieu lui avait demandé. Donc il devait se passer quelque chose entre lui et...
Il n'a pas hésité.
Il était sûrement imprégné de quelque chose qui n'est pas coutume.
C'est vrai qu'il a... il se dit l'un à l'autre... non, c'est juste avant 6. Hein. Oui, c'est le verset 6, pardon. Lève-toi, invoque ton Dieu. Donc, peut-être qu'il a prié à ce moment-là, hein, quand le capitaine est venu lui dire, là, le chef du bateau. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être en effet qu'il a prié. Peut-être que le Seigneur lui a parlé dans ce moment-là.
Mystère. En tout cas, moi, ce qui m'étonne le plus, étant donc prophète, alors bien sûr... c'était commun à tout le peuple d'Israël de penser que le salut était que pour eux. Ça c'était pas vraiment une théologie à eux, mais c'était une mauvaise compréhension de la grâce, enfin, même du temps de Jésus et même l'apôtre Paul, hein.
Oui, Pierre,
les Juifs ont toujours cru pendant longtemps que c'était que pour eux, que c'était eux le peuple promis, le peuple élu, que c'était eux qui... Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Jonas, en tant que prophète, il désobéit à la parole du Seigneur, il va sur ce bateau, il y a la tempête, Et monsieur descend au fond du bateau et dort.
Ouais, ouais. Profondément.
Moi, je ne sais pas, moi, je me suis imaginé Joseph en train... je sais quelque chose de la part du Seigneur que je dois faire et je ne le fais pas. Et puis, je vais sur un bateau, il y a la tempête. Je ne sais pas comment, je ne pourrais pas dormir. Ouais. Je me suis posé la question quand on a lu le texte, mais comment tu as pu faire pour dormir? On a dû te réveiller. Puis après, alors il a avoué tout de suite, hein. Le texte le dit, et puis il savait très bien que c'était sa faute, parce qu'il avait désobéi, il devait aller à Ninive, il a dit non, je ne veux pas à Ninive, parce que de toute façon je vais prêcher la repentance, puis Ninive se convertira, parce que Dieu aura pitié de Ninive, etc., etc. Mais peut-être il y a dans toute cette histoire quelque chose que, pour nous apprendre que, ben, que Dieu il nous aura toujours là où il veut.
Et qu'il faut lui faire confiance. Ça fait penser quand même, quand il accepte de se mettre par-dessus bord, ça fait penser comme à Abraham qui sacrifie Isaac. On va jusqu'au bout. Il a dit, jetez-moi la mer.
Oui, tu as dit tout à l'heure, il était sûr qu'il serait sauvé. Il n'était peut-être pas sûr, mais je pense qu'étant prophète, il s'est dit,
la miséricorde de Dieu.
Il connaissait la miséricorde de Dieu, il connaissait Dieu parce qu'il n'était pas le premier des prophètes. Il connaissait toute l'histoire d'Israël, il savait comment Dieu avait pitié d'Israël, il savait, puis il dit, c'est ma faute, jetez-moi hors du bateau, puis on verra bien ce que Dieu va faire avec moi. Mais il avait quand même peut-être
il était peut-être quand même submergé par justement parce qu'il avait désobéi et puis qu'il était c'était trop, puis que de toute façon il va mourir, donc puis justement d'aller à Ninive, de toute façon il serait peut-être mort, hein. Puis que je
ça
crois aussi, qu'ils étaient assez violents là-bas,
il savait pas l'accueil qu'il allait recevoir.
Peut-être qu'il en avait, comment dire, trop sur lui, quoi. Enfin, je veux dire que ça...
Aussi, oui.
Il y en a qui disent que Ninive, c'est Mossoul, on voit ce que ça peut donner, quoi.
Je vais ralentir, ils vont me couper la tête.
Ouais, ça devait être
bien ça. On était concernés, hein.
Oui.
Il méritait pas, d'après lui, d'être digne, d'entendre un message de Dieu. Propre justice, hein, non, ils sont trop mauvais, on ne peut pas aller vers eux. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle avec les djihadistes, si tout d'un coup le Seigneur nous demande
d'aller
à Mossoul maintenant pour évangéliser, alors qu'on sait qu'il coupe les têtes
à droite, à droite,
les chrétiens et tout.
Même sans aller jusque-là, simplement les. Simplement d'aller annoncer l'évangile. C'est aussi un esprit.
C'est intéressant parce que même Jésus, qu'est-ce qu'il va dire à la femme syrophénicienne? On critique peut-être Jonas parce qu'il pensait, comme tu viens de dire, il ne mérite pas d'être sauvé. Mais Jésus dit quoi à la femme syrophénicienne? Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Et puis il dit, après, c'est pas bon de prendre le pain des enfants, puis de le donner au petit chien. Il la traite de petit chien. Donc c'était quand même ancré dans la pensée des Juifs. Il n'y a que nous, comme les Vaudois. Hein.
Il n'y en a pas comme nous.
Mais il y avait aussi...
Non, on a bien joli temps, des veaux, des vaches, des glaciers.
Dans l'histoire que... on coupera la tête. Alors, dans l'histoire que tu racontes de Jésus, il y a aussi, parce que j'avais lu une fois un commentaire là-dessus que je trouve intéressant, il y a le côté pédagogique de Jésus, parce qu'il connaissait la foi de cette femme.
Bien sûr.
Et puis il met comme des barrières, puis les disciples, peut-être on peut s'imaginer derrière en train de se frotter les mains, ils vont dire elle va dégager, elle va plus nous importuner encore longtemps. Et puis elle a persévéré, hein, et puis elle a eu le fruit de sa foi.
Je suis 100% d'accord avec toi, c'était pédagogique. Jésus voulait montrer à ses disciples, il connaissait la foi de cette femme, il voulait montrer à ses disciples. Il a donné des petits clins d'œil pour le centenier romain, pour la femme
syrophénicienne.
Il voulait enseigner ses disciples et leur montrer qu'il y aura le salut aussi pour eux. Oui, c'est pédagogique, ça c'est sûr.
Moi, ce qui m'étonne le plus, ça me fait même du bien, parce que c'était quand même un homme, parce qu'au verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.
Ah, il voulait plus voir son argent.
Mais des fois, on n'est pas les mêmes. Prendre le vélo, puis il faut que quelqu'un qui va.
Il y a un orage qui arrive, puis tu rentres à la maison.
Mais c'était le prophète.
Non, ça. Par rapport là, tu parce que c'était Philippe là, tu disais qu'il quand il se fait jeter par-dessus le bateau, il avait la foi. Ou peut-être, mais ça on peut bien sûr on peut pas être affirmatif. Hein, ou peut-être il avait envie de mourir. Parce qu'il s'est dit oh non alors comme ça moi c'est fini. Servir le Dieu de cette manière là, il m'envoie encore la tempête autant que ça se termine là et puis. Ben, je ne sais pas, peut-être on verra dans le chapitre suivant aussi par rapport à la prière. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il était en phase de dépression ou je ne sais pas. Mais de toute façon, difficile à dire, hein, c'est clair. Hein.
Ouais. Et d'un autre côté, Dieu connaît chacun et puis il demande d'obéir à des choses qui ne sont pas impossibles non plus par rapport à la personne. On peut imaginer qu'il avait aussi l'éloquence, qu'il avait certainement le bagage pour parler à une ville ou à des gens sans qu'il ait peur à ce niveau-là, par exemple. Donc il était qualifié, je dirais, en guillemets.
Mais il ne le savait peut-être pas. Hein.
ouais, peut-être imaginer.
Bah, en tout cas, on verra qu'on verra dans la suite. Hein, il a pas fait des grands discours théologiques à Ninive pour que Ninive se repente, mais ça marchait. Mais c'est vrai que Dieu va pas nous envoyer dans des situations qu'on pourra pas gérer. Hein. Voilà, ça c'est clair. Il va nous accompagner, il va nous donner la force. Mais quand même, de manière générale, ce livre, il est assez magnifique. Parce qu'on a un peu le contre-exemple du prophète. Et puis, il a un côté tragique, mais comique aussi, ce livre. Et c'est vrai qu'on voit la souveraineté de Dieu. Parce que même le cœur dur de l'homme peut amener la repentance. Et voilà, ouais. c'est vrai que c'est je ne sais pas, si on voudrait faire la promotion du christianisme, c'est peut-être pas la première figure qu'on lèverait pour dire le bel exemple du missionnaire et du prophète parfait.
Mais c'est des exemples qui nous montrent qu'on est comme ça.
Ouais, justement, ouais. Il est plus proche de nous.
Parce qu'on est souvent comme ça, ou on peut l'être. Il y a des cas, des traits.
Oui, consciemment ou inconsciemment, des fois.
Voilà. Ouais.
Mais ce qu'il y a là, c'est, moi je trouve encore, de la part du Seigneur, c'est ironique, parce que, tu veux me fuir. Tu veux pas que les gens se convertissent. Attends. Je vais en convertir quelques-uns, hein, pendant que tu
même pendant que tu détournes.
Dieu utilise même Jonas quand il désobéit pour faire réfléchir les autres. Nous allons savoir qu'est-ce que des fois on est sur la mauvaise route, mais Dieu nous comprend comme il a pu comprendre Jonas, et puis il va quand même nous utiliser d'une manière ou d'une autre, parce qu'il nous met au pied du mur et il nous conduit, et puis notre témoignage finalement a quand même quelque chose de positif. Mais moi je trouve ça c'est intéressant de voir comment Dieu dirige, comme il a dit Alexandre, sous Dieu est souverain, et puis il peut même utiliser notre désobéissance
pour la tourner
pour sa gloire.
Amen.
Oui, c'est pas une incitation
à désobéir. Ça montre que même
si il ne faut pas faire exprès.
Combien même.
Enfin, voilà. Je vous propose qu'on fasse un pas de plus, là, que je commente un petit peu ce que j'avais préparé. Ou bien il y a encore quelqu'un qui voudrait rajouter. Donc, en effet, ce prophète avait une certaine théologie, hein, et puis on voit qu'il y a quand même sur son cœur un peu un manque de miséricorde envers les nations étrangères, et il s'attendait au châtiment de Dieu. Et puis, on verra que ce comportement-là, Jonas va avoir de la peine à sortir de cette mentalité-là. Pourtant, Jonas, ce nom qui veut dire colombe, donc colombe, symbole de la paix, il avait de la peine à être un messager de paix, hein, Jonas. Donc, si je relis le verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » C'est vrai que ça ne devait pas être une ville facile, hein, Ninive. La méchanceté de cette ville est montée jusqu'à Dieu. C'était vraiment une ville où il ne devait pas faire bon vivre, et puis où Jonas ne s'est pas dit « Ah, chouette, Dieu m'appelle, ça va me changer les idées, un petit moment relax, là. » Non, Dieu l'envoie certainement vers une des villes les plus difficiles de l'époque. Et puis, il y a quand même un défi pour le serviteur de Dieu. Hein. Et en plus, Dieu annonce le jugement. Donc, bon, après, oui, on sait que le prophète s'était imaginé que Dieu allait peut-être faire grâce. Mais quand même, il y avait une situation qui était difficile dans cette cité. Et puis, voilà, il s'est dit, si je vais prêcher, les gens vont se détourner et puis de leur mauvaise voie et Dieu va pardonner à ses habitants. Et c'est un peu quand même cette motivation qui le pousse à fuir loin de la face de l'Éternel. Donc, il part à Tarsis qui est la direction opposée de Ninive. Et il... Là, je saute un petit bout. Il va à l'opposé de Ninive à Tarsis. Tarsis, en fait, était une ville de... Il faut que je retrouve les notes. De l'Espagne actuelle, hein, près de Gibraltar. Et puis, les Phéniciens là-bas avaient fondé une colonie. Et puis, Tarsis, en fait, ça veut dire « jaspe jaune ». C'était une région qui était connue pour les richesses minérales. Hein. Et puis, on trouve différents textes qui nous parlent de cette ville-là. Et l'expression, surtout, les navires de Tarsis. Donc, les navires de Tarsis, c'était des navires commerçants. Il y avait du commerce qui se faisait déjà à cette époque-là via la mer méditerranéenne. Comme dans Psaume 48, verset 8, il y a plusieurs passages. Là aussi, dans Ésaïe 2, verset 16... Il y a plusieurs passages dans Ésaïe, dans Ézéchiel. Et puis, je vous propose là la lecture aussi dans 2 Chroniques. Puis après, on viendra sur Jonas, bien sûr. 2 Chroniques 9, verset 21, où il nous est parlé de ces bateaux de Tarsis. Alors, 2 Chroniques 9, verset 21. Où on peut lire le verset 20 déjà, c'est par rapport au roi Salomon sur les richesses de ce roi-là. Toutes 2 Chroniques 9, verset 20. Merci. 2 Chroniques 9, verset 20. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On ne faisait aucun cas du temps de Salomon. Hein? Pour eux, l'argent du temps du roi Salomon, ça valait rien. Car le roi avait des navires de Tarsis, naviguant avec les serviteurs de Huram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pins. Donc, il y avait tous les 3 ans, le roi lui-même, Salomon, avait ses propres navires. Tous les 3 ans, il faisait le commerce entre cette ville. Mais il y avait certainement d'autres bateaux qui commerçaient, quoi. Mais le roi lui-même, il avait une flotte. Un peu comme nous, on a une flotte commerciale suisse aussi, hein, qui n'est pas très élevée. Mais on a quand même une flotte commerciale, je crois, qui a été créée... par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour ouais. S'assurer la nourriture.
Basé à Genève, à Gênes, pardon.
À Gênes.
Ouais. C'était chez des chrétiens, la famille André, des Darmistes.
Ah, c'est ça.
Ouais. Qui a une flotte suisse.
Ouais. Ah ouais, la famille André. Ouais.
Des armateurs à Neuchâtel.
Aussi. Pas loin d'ici.
Alors, le roi Salomon, il avait quand même un certain flouze, hein, si on peut dire en termes modernes. Il n'avait même pas découvert un argent chez lui. Hein. C'était que de l'or. Hein. Et puis, on voit donc qu'il y avait un commerce qui se faisait avec Tarsis.
C'est un truc de l'époque.
Ouais, un peu, oui, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Et puis, il est pas. Alors, on revient sur Jonas. Il est parti d'où? Au verset 3, là, chapitre 1, il est parti de Jaffo. Et Jaffo, en fait, c'était le port de... Ça correspondait, en fait, au port commercial de Jérusalem. Hein. Il y a Jaffo,
oui. Oui, c'est Jaffa, ici.
Voilà, et c'est Jaffa, et ça correspond au Jaffa actuel. Voilà. Jaffa, qui est devenu, d'ailleurs, une partie de Jaffa, est devenue Tel Aviv actuel. Donc, Jaffo... qui voulait dire belle en hébreu, était une ville, ben justement, à partir aussi du roi Salomon, vu qu'on parlait du roi Salomon, c'est devenu un port, le port principal de Jérusalem. C'est par là que transitaient les marchandises qui allaient et qui partaient de Jérusalem. Donc, on voit que ce texte nous parle quand même de choses concrètes et réelles pour l'époque de l'Antiquité. Il y avait un commerce qui se faisait déjà dans la mer méditerranéenne. Et puis, c'était connu déjà, ces bateaux de Tarsis. Ces bateaux de commerce, c'était connu dans l'Antiquité. C'était quelque chose qui se faisait couramment. Donc, il a pris une destination qui était connue. Pourquoi? Bon, on sait, hein, il fuyait loin de la face de l'Éternel. Quel était son projet? Moi, je me suis imaginé, mais c'est pour rire, hein. Peut-être il s'est dit, ah ben je vais aller là-bas, je vais aller faire commerçant de perles précieuses, maintenant les trucs de Dieu, allez, j'oublie, j'en ai marre, franchement ça ne me correspond plus. Peut-être qu'il s'était déjà dit, je vais ouvrir, quand je reviendrai en Samarie, une belle bijouterie, et puis je l'appellerai Joaillerie Joannas. Hein, c'est joli, hein? Ça fait assez vendeur, quoi. Mais, hein, parce qu'il y a un mais au verset 4, mais les plans de la bijouterie tombèrent à l'eau. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et puis bon, ils commencent à prier. Les prières restent sans résultat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à jeter les objets qui étaient dans le navire afin de le rendre plus léger. Hein. Et puis, ces objets, ils pouvaient être... ça pouvait être des vases, ça pouvait être de la vaisselle, ça pouvait être des ustensiles divers. Qu'est-ce qu'ils pouvaient ramener de Jérusalem pour aller vendre? Peut-être qu'ils faisaient des escales aussi. Hein. Ils n'allaient pas forcément en ligne directe, ce bateau-là n'allait certainement pas en ligne directe jusqu'à Tarsis. Donc, on peut s'imaginer, est-ce qu'ils avaient du blé, du mil, voilà, je ne sais pas. Ils pouvaient avoir plein de choses. Hein. Ils pouvaient
de
même...
L'huile.
De l'huile, ouais. Il y avait des oliviers, hein, certainement déjà à l'époque. Hein. Des fruits aussi, parce que Jaffa était déjà connu pour ses vergers à l'époque de l'Antiquité. Hein. Donc, voilà, il y avait déjà des jardins très luxuriants. Et puis, bien après, hein, encore au 18e siècle, Jaffa était déjà connu pour ses vergers. Donc, il y avait une cargaison, là, diverses et variées. Et puis, les mariniers, vu que leur Dieu ne répond pas, ben, ils commencent à jeter tout par-dessus bord. Ça ne suffit pas. Et puis... Donc, Jonas, il est vraiment dans la tempête. Il voit que tout le monde essaye d'alléger le bateau un max. Mais lui, il ne s'inquiète pas. Il descend au fond du bateau. Hein, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il est à l'inverse de l'attitude des mariniers qui invoquent leur Dieu, qui essayent de sauver la situation comme ils peuvent par leur force. Lui, il descend au fond de la cale. Et puis, il s'endort profondément. Et puis on a vu.
Je sais pas pourquoi, hein. Soit il était confiant, ou alors il disait ça vaut plus la peine. Moi,
on est perdu.
Voilà, je vais dormir, autant m'en aller en dormant, je sais pas.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé hein, de ce moment-là, en effet, hein, mystère. Mais il s'est endormi profondément. Donc,
ça, c'est pas ça, Evie, vraiment.
Aussi, ouais.
Parce que comme s'il était, ouais, peut-être c'était trop, quoi, qu'il était accablé comme ça, puis qu'il est...
C'est possible.
Il n'avait pas le mal de mer, en tous les cas. Ah, c'est vrai. Ouais.
Clément, tu voulais dire quelque chose?
Je disais qu'ils s'en foutaient complètement.
Ouais, peut-être aussi, hein. Tu t'endors profondément, t'as la conscience tranquille, ouais. Ou je sais pas, mais... Ouais,
un jour, il nous dira.
Ouais, un jour, ouais, quand on le croisera, on a les questions à lui poser, hein.
Jonas, j'ai deux mots.
Alors, et bon, il s'endort et puis il y a le capitaine là qui va le secouer, le rechercher et qui lui demande de prier. Mais en tout cas, la tempête est toujours là. Et puis là, les matelots se disent, ben, tirons au sort et pour savoir qui nous attire ce malheur. Et le sort, patatras, tombe sur Jonas. Hein. Et il lui pose la question, mais pourquoi tu nous attires ce malheur? Qui es-tu? Quelles sont tes affaires? Quel est ton pays? Et Jonas de répondre, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré.
Ah, il leur avait dit.
Il leur avait dit. Donc, je pense que ça faisait peut-être un moment qu'ils naviguaient, puis ils ont commencé à partager les uns les autres. Et voilà. Et Jonas avait dit mais pourquoi tu vas à Tarsis? Quelles sont tes motivations? Je pense, hein, ils lui ont posé la question. Et puis, je suis en train de fuir loin de l'Éternel. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont la crainte, ces gens ont la crainte de Dieu. Hein. Il y avait quand même une notion de Dieu ici dans leur cœur. Et puis, ils lui demandent, mais que faut-il faire pour que la mer se calme? Parce que la mer, la solution n'était pas encore là. Hein. On voit que l'orage devenait de plus en plus grand. Et puis, Jonas de dire ça, en effet, hein, on en a parlé déjà. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête.
Mais donc, quand on lit ça, on sent qu'il sait un tas de choses d'avance. Mm. C'est à cause de moi.
Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi, ils croyaient en toutes sortes de dieux à cette époque-là. Mm. Donc, ils priaient peut-être, ils ont peut-être fait appel à d'autres dieux, et lui n'a pas voulu, parce qu'il il a dit qu'il était,
Il était en froid avec Dieu.
non, mais justement, mais qu'il était de l'Éternel, puis qu'il... Et donc, il n'a peut-être pas voulu se plier. Alors, les marins, avant de prendre le bateau, avant de prendre la mer, des fois, ils ont aussi certaines coutumes, ou ils ont ils vont rite. Peut-être prier, invoquer tel ou tel dieu.
Aussi, ouais,
à cette époque-là, hein, je dis, ils ont toutes sortes de dieux, ils croyaient en plusieurs dieux, et peut-être que lui n'a pas voulu se plier, donc ils ont déjà vu qu'il y avait une différence, et il leur a dit ça, mais après, comme il est dit qu'il est rejeté de l'Éternel, enfin qu'il est...
Qui
fuit l'Éternel... Ben après, ils se sont dit, mais parce qu'ils sont prêts à croire en toutes sortes de dieux, mais quand la personne, peut-être, elle dit je fuis mon dieu, ils se sont dit, ben non, leur dieu n'est pas avec eux, mais lui, il savait que Dieu était quand même avec lui. Enfin, je ne sais pas si vous voulez. un peu compliqué, non, mais ils croyaient en toutes sortes de dieux, ils invoquaient les différents dieux à cette époque-là. C'est ça qu'aussi, il ne faut pas qu'on oublie, c'est que.
Les marins à Marseille, ils invoquent toujours la Vierge Marie.
Justement, puis lui, je pense qu'il n'a pas voulu se plier à ça, donc ils ont déjà vu une différence. Mais quand après, il dit, mais je fuis mon Dieu, ben, ils se sont dit, ouais, mais alors, ils ne croient même pas en son Dieu, ou ils ont dû un peu...
Pas dans son sommeil, Dieu y a peut-être parlé aussi.
Moi, je pense qu'il savait comment.
Mais c'est vrai qu'il a quand même une certaine révélation une fois, parce qu'il dit, mais jetez-moi dans la mer.
Oui, c'est pour ça qu'il allait savoir.
Ouais, parce qu'il sait très bien. Oui, mais ça, c'était évident.
Ouais, mais
il désobéit. Après, le sort tombe sur lui. Mm. Alors, Jonas, en tant que prophète, alors ça, c'est assez évident. Jonas, en tant que prophète, connaissant l'Éternel, l'histoire du peuple d'Israël, et le sort étant tombé sur lui, il sait très bien que c'est sa faute.
Ça n'arrive pas par hasard.
Non, il n'y a pas de hasard. Non, Jonas, il sait très bien, c'est ma faute, jetez-moi, parce que c'est moi qui suis la cause de cette tempête.
Il se repent quelque part.
Ben, là, il commence déjà à réfléchir. Et moi, il y a juste un petit truc, là, pendant que tu parlais. Quand, je ne sais pas tout ce que Jonas a dit à ses hommes, mais après, ils ont quand même essayé de ramer. Puis après, au verset 14, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang,
innocent.
Car toi, Éternel, tu fais ce que innocent. Tu veux. » Du sang innocent, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, bon, du sang... Mm-hmm. Ce qu'ils disent là donne l'impression que même malgré le fait que Jonas leur a dit que je sers le Dieu qui a créé les cieux et la terre, donne l'impression qu'ils connaissaient quand même quelque chose de ce Dieu d'Israël.
Il y a quand même des choses qui sont...
Moi, il me semble que ce n'était pas impossible que quand Jonas leur a dit « moi, je sers ce Dieu-là », que c'était pas, ça ne me semble pas impossible qu'ils savaient déjà qu'ils avaient quelques notions de ce Dieu.
Ils venaient en plus d'Israël, donc
ils partaient déjà,
ça faisait peut-être longtemps qu'ils commerçaient avec
ils avaient quand même quelques notions de l'histoire d'Israël.
Peut-être qu'une fois ils sont montés jusqu'à Jérusalem voir le temple, le temple était quand même assez renommé, on peut s'imaginer aussi.
Parce que les seules paroles de Jonas ne me semblent pas suffisantes pour que ces hommes disent « tu fais ce que tu veux ». Ils savent déjà qui il est. Hein, « tu fais ce que tu veux, ne nous charge pas du sang innocent ». Ils savent que Dieu est juste, ils savent que... c'est intéressant quand même de voir comment...
Puis le fait qu'ils appellent l'Éternel, est-ce
que ça signifie... Oui, au Éternel. Hein.
Ouais, c'était pas n'importe quel Dieu.
Voilà.
C'était pas Dieu, c'était l'Éternel.
C'est comme quand on lit l'histoire d'Israël, même des grands rois... Nebuchadnezzar, par exemple, il savait très bien. Ils suivaient leur propre religion, mais ils connaissaient très bien l'histoire d'Israël. Et puis le Dieu d'Israël, ils avaient entendu parler de toutes ces choses. Et là, c'est comme si Dieu veut, au travers de la désobéissance de Jonas, veut confirmer à ces hommes que ce qu'ils ont déjà, les bribes de connaissances qu'ils ont déjà, sont justes, et qu'il veut leur confirmer qu'il est le Dieu souverain absolu. Puis quand on lit le psaume 107, bon, le psaume 107 a peut-être été écrit. Qu'est-ce que tu as dit, la date, là, pour Jonas?
Pour Jonas, c'est vers...
750.
Voilà, entre 800 et 750. Ouais. Ouais.
Ah, moi, mais déjà, le psaume 107 dit les hommes ramaient, montaient, descendaient de la ville.
Ah oui, je crois
que
c'est là.
Et il les amena au port désiré.
Ouais.
Enfin, non, c'est peut-être pas en rapport avec ça, mais parce que la date ne correspond pas. Mais...
Ouais, ouais.
Non, la date ne correspond pas du tout.
Mais je trouve intéressant que...
Comme dit Melfo, bûcher... Non, enfin, je...
Alors, en effet, il y avait peut-être déjà une certaine notion chez eux, mais en tout cas, quand Jonas, il n'arrange pas ses affaires, quand il dit... je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, parce que la mer est déchaînée. Donc les gens doivent quand même se dire, mais il fuit le Dieu qui a créé tout ça, et puis nous, on est au milieu de la tempête, le sort tombe sur lui, et puis qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette mer se calme? Ben, jetez-moi par-dessus bord. Et puis, que font les hommes? Comme disait Joseph, ben, ils ont ramé. Pour essayer de gagner la terre, ils ont fait quelque chose d'humain. Parce que ça ne devait pas être, même qu'on était dans l'Antiquité, qu'on a l'impression peut-être qu'on était entouré de barbares, jeter un homme par-dessus bord qui était un de vos passagers, ça ne devait pas être tous les jours. Et puis peut-être que même ils avaient peur des conséquences. Parce que peut-être ils pouvaient se retrouver face à un jugement. On ne sait pas. Ça ne devait pas être commun de jeter comme ça, juste pour le fun, le passé. Mais vous êtes fous. Ouais, la mer ne s'est pas calmée après. Ben, bien sûr, bande d'imbéciles. On peut s'imaginer dans la tête des mariniers. Là, ça ne devait pas être tout simple de prendre cette décision. Et puis, ils vont essayer de ramer un bout. Mais la mer est contre eux. Et puis, alors, ils prient. Verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Et ne nous charge pas du sang innocent. C'est pour ça que je soulignais avant innocent. C'est peut-être justement par rapport à Jonas. Ils se disent, mais peut-être, Seigneur, on fait faux. C'est un sang innocent qu'on est en train de jeter à la mer. Ou peut-être, si on ne fait rien, c'est nous tous qu'on va périr. Et puis, on sera chargé de cette responsabilité de ne pas avoir jeté Jonas. Ils sont quand même un peu dans le doute de ce qu'ils font. Ils prient l'Éternel. Et puis...
En dernier recours, ils jettent.
Il jette, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux.
Donc,
hop, il le jette, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte, on peut dire,
tu m'étonnes, hein.
de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Hein.
Donc au Dieu de Jonas. Hein.
Voilà.
Magnifique.
Ouais.
Hein.
Ouais. Oui, c'est vrai que
c'est une désobéissance.
C'est des personnes qui, en effet, se sont tournées vers le Seigneur. Hein. Ces mariniers, ben, c'était quand même des professionnels. À un moment donné, quand la tempête dans laquelle ils se sont trouvés, ils ont dû aussi se dire, mais on est face à quelque chose qui n'est pas d'ordre naturel. Et puis, plus on va de l'avant, plus elle grandit dans la fureur. Et puis, dès qu'on jette notre passager,
ça se calme.
Ça se calme direct. Hein. Donc, voilà.
Ça va être impressionnant quand même, c'est vrai. Hein.
Alors, bon, on a fini le premier chapitre, mais on ne va pas pouvoir entamer le deuxième.
Alors, ben, c'est la prochaine fois.
Ouais, ouais. On n'est pas pressé de toute façon.
Il y a encore un petit truc qui me vient à l'idée, là, par rapport à ce que tu dis. Dès que la cause du mal n'est plus, la tempête s'arrête. Et ça peut-être nous donner une leçon que, aussi dans notre vie, il y a peut-être des tempêtes spirituelles dans notre cœur parce qu'on désobéit.
Aussi,
ouais. On désobéit, puis ça fait comme des tempêtes dans notre cœur. Il y a ci, il y a ça. Et puis le Seigneur met le doigt sur notre conscience, dit, mais Giuseppe, c'est ta faute. Hein. Tu sais très bien ce que tu as fait. Pourquoi tu as... Puis au moment où je dis au Seigneur, juge, comme disait David, hein, fais de moi ce que le roi David, fais de moi ce que tu veux. Voilà, dès qu'on accepte la cause du mal et puis qu'on règle les choses, Seigneur, je suis prêt à régler, je suis prêt à mettre les choses en ordre, la tempête se calme et puis on peut de nouveau être tranquille, hein, dans la paix.
Quand on revient sur le chemin du Seigneur,
ouais. Hein,
aussi quand on s'est détourné de lui.
Oui, on est rebelle.
Voilà, on n'est pas mieux que Jonas. Hein, on a dit,
on n'est pas mieux que
Jonas.
Il y a une situation, on peut se trouver
comme
ça. On
a plein de choses, des fois on se dit, oh, mon Seigneur, non. Ouais. Consciemment, même des fois inconsciemment, hein, et le Seigneur nous remet à l'ordre, nous remet au pied du mur,
le bon chemin.
Et les choses se calment, notre conscience est apaisée. Puis la tempête.
Oui, mais des fois, on est jeté aussi à la mer. Hein. Mais de temps en temps.
Ça arrive. Hein.
Oui.
De vouloir résoudre le problème par soi-même.
Le moment où ils remettent à tout.
Ils
acceptent que
nous pouvons rien faire. C'est pour oser me jeter à la mer. Alors qu'ils ont essayé de ramer, ils ont essayé de régler de façon humaine.
Parce qu'au moment où ils reconnaissent qu'il est Dieu, qu'il est sauveur, qu'on lui laisse toute la place.
Je ne sais pas s'ils lui ont mis un gilet avant de le jeter.
Ce que dit Philippe, Philippe Margot, me fait penser à la parole de Jésus, qui prend Jonas, parce que Jonas est un type de Jésus.
Ouais.
Le mal, tu viens de dire, il est jeté à la mer. Le mal retourne où il doit aller.
Penser au pourceau.
Pardon ?
Ça fait peut-être penser au pourceau.
Oui, mais aussi au salut que Jésus-Christ a accompli. Le mal, la cause du mal, retourne. Le mal retourne au mal dans
l'abîme.
Dans la mer. D'où il est venu, d'où le mal est sorti, l'abîme. Et puis, le Seigneur aussi, en faisant son œuvre de salut pour nous, remet toutes les choses à leur place et le mal retournera puisque c'est encore
à sa place. Ouais.
De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre.
Ouais. Je citerai le verset d'ailleurs la prochaine
fois. Oui, je voulais pas prendre.
Non, mais c'est juste. Mais c'était bien formulé. Hein. Ouais, il y a quand même, on voit, hein, c'est un texte qui est riche, on peut faire un parallèle aussi avec le Nouveau Testament, et puis nos propres vies, en effet. Hein.
On voit aussi qu'ils hésitent à le jeter par-dessus bord, hein. Donc on voit quand même qu'humainement parlant, ils ne vont pas faire ça comme ça, même qu'ils je témoigne, ils ne le font pas, ils rament. Mmh. Donc ils essayent déjà par eux-mêmes, comme on l'a dit, hein,
de trouver une autre solution,
plutôt que d'être, je ne sais pas, sujet à être des criminels parce qu'ils l'ont
jeté à la mer. Oui, d'exécuter tout de suite cette idée.
Voilà, c'est ça.
C'est comme disait Alexandre, ils ont quand même quelque chose d'humain. Hein. Mmh. Ils ont quand même quelque chose d'humain.
Bien sûr.
Et ça, ouais, c'est, pas des bruits, c'est significatif. Hein,
ça nous montre
que même que c'était dans le temps, hein, ils n'étaient pas.
Bah,
il y avait quand même un peu
de civilité. Hein, ouais. Puis c'est vrai que ça ne devait pas être commun de la part de marinier de jeter un passager par-dessus bord.
Aussi.
Je sais pas, c'est un peu comme un médecin qui tuerait son patient. Quoi,
ouais.
Hein,
ça c'est intéressant.
Ouais, ça va à contresens du travail. Hein.
De la déontologie des marins.
Ouais, ça c'est encore autre chose. Licencier un employé, ou bien si c'est l'employé modèle, tu licencies ton meilleur employé, ouais. Une entreprise ira mieux, c'est vrai que ça pas vrai.
Surtout qu'il avait payé, hein.
Ah, il avait payé.
Ah, il avait payé, ouais.
Le prix pour.
Je sais pas s'il avait demandé d'être remboursé.
Est-ce qu'il avait dû emprunter pour payer. Tu veux arrêter là?
Tu voulais dire quelque chose?
Non.
Non. Ah, l'enregistreur là. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire c'est l'heure, mais oui, j'arrête. Et puis on fera une prière finale.